Cette semaine, Annette Wieworka rencontre Talila. Ce soir, vers la Terre promise.
Je suis devenue sioniste en regardant la pochette d'un disque où on voyait une superbe fille en short kaki, les jambes bien plantées au milieu d'un champ, comme Sylvana Mangano dans Riz amer. Ah, devenir la Sylvana Mangano du Negev. Talila, c'est ainsi que vous racontez votre entrée dans un mouvement sioniste. Les choses sont peut-être plus prosaïques, plus ordinaires. Comment avez-vous rejoint ce que vous appelez le mouvement, ce que vous et vos camarades appellent le mouvement?
Ah oui, oui. Oh, bah, tout à fait par hasard. Les parents ne savaient pas quoi faire de nous quand les vacances arrivaient. Ils rencontrent, lors de vacances à eux, des gens dont ils deviennent amis, dont les enfants vont dans un mouvement de jeunesse sioniste, socialiste, qui s'appelle le Dror. Ils en parlent à mes parents, les enfants m'en parlent, tout cela. Et ils m'envoient pour une colonie de vacances dans ce mouvement de jeunesse. Et là, ça me plaît beaucoup et je continue à fréquenter ce mouvement de jeunesse socialiste, sioniste, qui s'appelle le Dror.
Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu ce qu'est le Dror ?
Oui, c'est un mouvement qui est lié à un parti politique qui s'appelle l'Ardout Avoda, qui est un parti lié au Poale Tzion, qui est le parti des travailleurs, donc à la fois marxiste et sioniste. Ça fait une drôle de...
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire sioniste dans ces années-là? Parce que le mot a tellement bougé.
Oui, ça a beaucoup bougé. Bon, marxiste, on peut imaginer, vie communautaire, sur des principes égalitaires. C'est un mouvement qui nous destine à aller en Israël.
Et aussi, je crois qu'il y a une particularité de ce mouvement qui est le retour à la terre.
Oui, absolument.
Qui n'existe pas dans les autres mouvements marxistes.
Qui existe, enfin en tout cas pour la Shomera Tzahir, qui est un peu plus à gauche, nous sommes destinés à aller vivre dans un kibbutz et à vivre donc cette vie communautaire et égalitaire et à travailler de nos petites mains blanches d'occidentaux. Donc voilà à quoi nous destine à l'âge de 18 ans ce mouvement de jeunesse.
Alors, vous êtes née Iliane Françoise Goodwillig. Vous êtes déjà Goodville,
oui.
Mais là, vous n'êtes plus Eliane, puisque vous choisissez un nouveau prénom qui est celui de Talila.
Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire Talila?
Oui, alors Talila, Tal veut dire la rosée en hébreu. Quand on arrive dans ce mouvement de jeunesse, donc il y a un local à Paris qui se trouve non loin de la place du colonel Fabien, rue Vic d'Azir, très exactement. On nous propose de devenir presque déjà à l'âge de 12-13 ans, presque israélien. Donc on nous propose une liste de prénoms en hébreu et nous choisissons. Alors moi, on me propose une liste, je trouve que Talila c'est original, c'est joli, ça me plaît. Donc je dis voilà, bah moi je choisis ce prénom. Et je deviens à ce moment-là Talila.
Et pourtant je crois savoir que vous aviez un prénom juif.
Mais oui, lorsque nous naissons dans une famille juive ashkénaze, on nous donne un prénom français, et bien français, donc c'est pourquoi je m'appelle Eliane Françoise, mais on nous donne le prénom d'un parent disparu. Nous sommes là pour réincarner, n'est-ce pas, ce parent disparu. Je porte le prénom de ma grand-mère maternelle, qui s'appelait donc Chaya.
Et dont la légende dit
qu'elle chantait.
Qu'elle chantait.
Voilà.
Et effectivement, vous êtes dans le mouvement, vous chantez, vous allez...
Je danse d'abord.
Vous dansez. C'est vrai qu'on danse et on chante tout le temps dans ce mouvement.
C'est un mouvement qui s'apparente un peu, et même beaucoup, à un mouvement scout. Nous avons des réunions en dehors des colonies de vacances que nous appelons Mahane, c'est-à-dire un camp de vacances. Nous avons des réunions le samedi soir, le dimanche après-midi et à l'époque le mercredi soir car nous n'allons pas en classe
le jeudi.
Nous avons des réunions, mais ça n'est pas seulement des réunions où nous dansons, où nous chantons, mais ce sont des réunions très très sérieuses où nous avons une formation intellectuelle, politique, où je comprend pas non plus toujours ce qu'on nous dit, mais et on nous apprend à vivre de façon collective et égalitaire. On nous enseigne des principes. Et ce qu'on nous enseigne surtout sans nous l'enseigner, c'est que nous devenons de nouvelles personnes. C'est-à-dire que nous nous débarrassons de... Comme on nous donne un nouveau prénom, nous nous débarrassons de ce que je qualifie de honte diasporique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sentiment de honte que vous dites avoir éprouvé à l'école primaire et au lycée ?
Eh bien, ce sentiment de honte, c'est le fait d'appartenir à une famille différente des autres familles que je peux rencontrer chez mes camarades d'école. Une religion différente.
Même si on la pratique peu.
Même si on la pratique pas, mais peu importe. Ouais. On est juif. Mmh. On est juif, on est différent. On est regardé de manière différente. Et ce que j'entends dans la boutique de mes parents, même s'il y a un va-et-vient perpétuel des clients et des voisins et des discussions en français, ce que j'entends moi en yiddish, c'est quand même une certaine peur de l'autre, une peur de ce qui peut nous arriver encore, comme ce qui est arrivé à toute notre famille et à tous les autres. Et il y a ce lourd sentiment de la perte et de la douleur qui sont extrêmement lourds à porter pour des enfants comme nous. Il y a aussi un aspect. Mon père ne s'habille pas comme les autres papas. Il vient me chercher souvent à l'école. Il a une casquette. Il parle différemment. Il ne sait pas construire une phrase correctement en français. Il déforme les mots, les sons. Il a l'air étranger. Et lorsqu'on est enfant, on veut surtout pas avoir l'air étranger. On veut ressembler à tous les autres. Et c'est cela que je ressens.
Et le mouvement, m'avez-vous dit, vous lave en quelque sorte de la honte.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ?
Mais d'abord, il nous apprend des choses. Il nous apprend des choses à la fois sur l'avenir qu'on peut avoir, bien sûr, dans un pays idéalisé, une sorte de paradis dont beaucoup auront une sorte de... Non, pas de, non, j'exagère quand je dis dégoût, mais de quitteront ce paradis qui n'est pas un paradis.
Vous n'irez pas tous au paradis.
On n'ira pas tous au paradis. Ouais. Ceux qui vont reviendront, quelques-uns y resteront, mais sauront et comprendront que la vie est comme ailleurs, est dure et peut-être plus dure qu'ailleurs. On nous apprend aussi des choses sur notre passé et sur ce que nos parents ont vécu dans cette Pologne qu'ils maudissent. Car ils la maudissent, cette Pologne, c'est ce qu'on entend chez nous. On y apprend qu'on peut être fier de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont connu, et on peut comprendre ce qu'a été cette mort de masse. On peut aussi apprendre qu'ils avaient des inclinations politiques, qu'ils étaient pour certains des révolutionnaires. Moi, j'apprends à connaître ce qu'était le plus jeune frère de mon père, c'est-à-dire un militant communiste révolutionnaire, et j'en deviens fière. J'apprends l'histoire de la ville de mes parents, j'apprends aussi ce qu'a été petit à petit leur vie pendant cette dernière guerre, où ils se cachent et où ils se montrent extrêmement courageux, ce dont je n'avais pas conscience quand j'étais plus enfant. J'avais un sentiment de faiblesse, je n'avais pas un sentiment de courage.
Le mouvement vous donne
oui,
de la force,
le
en fait.
Le mouvement nous donne, nous, parce que ce n'a
et
pas
qu'à moi.
Et peut-être
aussi le fait de vous retrouver avec des gens qui sont comme vous, qui
voilà,
ont fait la même histoire.
Voilà, je ne suis pas toute seule. Voilà.
Et mixte, des garçons et des filles.
Ah oui, et ça, quand
parce
même.
Que l'école n'était pas mixte à l'époque.
L'école n'était pas mixte et j'arrive au mouvement dans la préadolescence, hein. Et les garçons, c'est quand même, effectivement, comme vous le dites, enfin, vous le dites pas, mais vous le sous-entendez, c'est quand même très important pour une préadolescente et une adolescente. Et la vie communautaire, les discussions perpétuelles, car nous avons des discussions perpétuelles.
Vous discutez, vous dansez, vous chantez.
Oui. Et ça, c'est quand même une vie merveilleuse. Et nous sommes libérés aussi...
Des parents.
Des parents. Ouais. Et de la chape de plomb des parents. Ouais. Et les parents vont se rendre compte que nous prenons goût, justement, à cette liberté et ils vont pas voir ça d'un très bon œil.
Et alors, dans le cadre du Dror, vous allez aussi un peu en kibboutz. Vous partez
oui,
en Israël en bateau, parce qu'à l'époque...
On part entre guillemets, en vacances. Oui, ce sont des vacances en été. Et nous allons, évidemment, dans un kibboutz où nous travaillons le matin, assez peu, je dois dire, hein, et où nous visitons le pays et nous prenons connaissance, de cette manière de vivre dans l'Israël de l'époque, c'est-à-dire des années 60.
Et pourtant, votre bac en poche, vous quittez le mouvement, vous ne partez pas faire, comme on dit, votre alia, vous n'allez pas vous installer en Israël. Certains du mouvement, mais je pense une minorité le font, mais pas vous. Et à la place, vous choisissez de devenir encore plus française en allant étudier les lettres à Nanterre.
Voilà. Je ne pars pas en Israël. C'est à l'âge de 18 ans qu'on doit choisir. Certains de mes camarades partent au kibboutz, vivre au kibboutz. Certains y resteront peu, mais d'autres reviendront à Paris car ils auront du mal, effectivement, à s'adapter à cette vie. Et moi, je choisis de rester en France pour des tas de raisons. Je pense que la raison essentielle, c'est que je ne veux pas quitter mes parents. Je pense que c'est ça, au fond.
Vous voulez les quitter, mais pas trop.
Pas trop, mais
parce
je veux les quitter
que
beaucoup.
Vous choisissez Nanterre, qui n'est quand même pas inaccessible quotidiennement
voilà.
De la rue Truffaut. Hein, parce que la rue
je
Truffaut
veux les
n'est
quitter
pas très...
à quelques stations,
voilà,
de
quelques
métro,
stations de métro,
quelques
voilà.
Stations de train. Et puis, à l'époque, mon frère a 7 ans de plus que moi. Il est à la fois mélomane, très calé en littérature française. Et il a une très, très grande influence sur moi. Et c'est lui qui m'élève, en fait, ouais. Intellectuellement. Ma mère me fait faire mes devoirs quand je suis petite. Elle me fait réciter mes leçons. Mais elle a un œil assez distant par rapport à mes études. Et mon père, encore plus, évidemment. Mais c'est mon frère qui veille sur moi. Mon frère qui m'emmène voir ses copains, etc. Donc je rencontre de jeunes intellectuels, en fait. Et je décide de continuer mes études.
Je et me de lettres et Nanterre.
Des études de lettres modernes.
Donc vous entrez à Nanterre en quelle année?
Eh bien, c'est
parce que c'est quand même... Pour Nanterre, c'est très important.
Mais oui,
Nanterre vient d'être construit.
Eh bien, c'est en 64, je pense, 64-65. Il me semble que c'est à cette époque-là que je vais à Nanterre. Nanterre vient d'être construit sur un
et
terrain
c'est
vague.
C'est une nouveauté en France, c'est un campus avec une cité universitaire.
Avec une cité universitaire.
Et vous choisissez, malgré la proximité qui vous aurait permis de faire l'aller-retour dans la journée, vous choisissez de vous installer à la
oui,
cité universitaire.
Parce que je veux cette liberté. Je décide d'être libre, de fumer des cigarettes, de m'habiller d'une certaine façon, bien que mon père continue à faire des vestes et des pantalons, et de vivre effectivement à Nanterre et de vivre cette vie universitaire. Il faut imaginer Nanterre à cette époque, c'est tout petit. On se connaît pratiquement tous. On parle à tous, bon, même si on n'en connaît pas certains. Mais, et on se retrouve dans la fameuse cafétéria, où on reste des heures et on se retrouve aussi...
En fait, vous prolongez le mouvement, mais autrement. Il n'y a plus
voilà.
La terre promise, mais il reste, la camaraderie.
Et il reste la révolution, quand même.
La camaraderie, la révolution et les débats infinis.
Voilà, la terre promise, c'est la révolution.
Donc, vous vivez finalement à Nanterre les préludes à mai 68, enfin à mars, au 22 mars d'abord et à 68. Parce que je crois que, à la différence du mouvement, il n'y a pas la mixité à la cité universitaire
et
à
non.
Nanterre.
Et non, il y a le bâtiment des filles et le bâtiment des garçons. Et chose extraordinaire, c'est que les filles ont le droit d'aller dans le bâtiment des garçons. Mais par contre, les garçons n'ont pas le droit d'aller dans le bâtiment des filles. Et c'est comme cela que... Tout
commence à révolution,
commence
mai 68. Racontez un peu.
Ben voilà, un jour, les garçons décident, je pense que c'est évidemment avec l'assentiment des filles, de rentrer en force dans le bâtiment des filles. Alors, je ne sais plus très très bien, j'ai un tout petit peu oublié cela, parce que j'étais pas en première ligne, je ne suis pas une militante. Mes copains sont plutôt les anarchistes, parce que je rencontre Cohn-Bendit. Cohn-Bendit fait le trajet avec moi quand j'arrive à la fac, Gare Saint-Lazare, Nanterre-la-Folie. Je ne sais plus, je pense que c'est comme ça qu'on se connaît, puis parce qu'il a une grande gueule, donc tout le monde le connaît. Et parce qu'on a un lien évident qui est l'origine.
Et donc, même si je pense que vous n'en parlez pas beaucoup.
On
n'en
parle pas beaucoup, mais on en
mais
parle quand même.
Ouais.
Oui, si, on en parle un peu quand même. Mmh. Oui, oui, ils me disent ce que fait sa mère. On en parle.
Et sa mère avait travaillé au Fonds social.
Voilà. Donc, et puis moi, l'influence du mouvement est quand même très forte encore. Ouais. Et tous mes copains sont des camarades du mouvement. Donc moi, je crois que j'en parle beaucoup encore à l'époque. Même si je n'en fais plus partie, c'est un passé très proche et très prenant. Donc moi, je ne suis pas une militante anarchiste, je ne suis pas trotskiste non plus, mais je deviens très amie de Florence Prudhomme, qui est à la JCR. Et quand nous passons de longues soirées dans le bâtiment des garçons, dans la chambre de certains garçons, forcément, il y a des discussions politiques qui sont un peu lointaines pour moi. Je ne comprends pas tout non plus. Je découvre certaines choses. Et donc, je ne suis pas en première ligne. Mais enfin, je fais partie du bâtiment des filles quand même.
Et vous étudiez un peu aussi.
Oui. En propédeutique, j'étudie, c'est-à-dire la première année de la fac, j'étudie très, 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 très bien. C'est facile. Et puis, ça commence à se gâter en première année de licence. Parce que là, je rencontre...
C'était à l'époque des certificats hein,
oui,
de licence.
Oui, c'est les certificats. Oui. Il y a 2 ans d'études pour obtenir la licence. 2 certificats une année, 2 certificats l'autre. Et là, je rencontre un amour de jeunesse et même de, de non-jeunesse. Et ça commence à se gâter à ce moment-là, oui.
Enfin, malgré tout, vous avez quand même vos diplômes.
J'ai mes diplômes et je commence très vite. J'ai mes diplômes, j'ai une licence, qui ne vont pas très loin, hein, mes diplômes. J'ai une licence de lettres modernes. Et j'arrête tout en 68. Je participe, bien sûr, avec mes camarades à toutes les manifs. J'ai quand même très peur des pavés et des flics. Très, très peur.
Et vous chantez l'International?
Ah oui, dans les manifestations, bien sûr. Bien sûr que je chante l'International, comme tout le monde.
Ouais. Et en 69, donc, vous arrêtez vos études, vous ne les poussez pas plus loin.
Je ne les pousse pas plus
et
loin.
Et vous travaillez.
Je deviens maîtresse auxiliaire.
De lettres.
De lettres, de français.
Et dans le même temps, vous retrouvez, sous une autre forme, le mouvement.
Oui. Ah, mais ça, je l'ai retrouvé avant. Oui, oui.
Et vous retrouvez les camarades du mouvement que vous n'avez jamais quittés, mais vous le retrouvez avec un groupe qui s'appelle Colavive.
Voilà. Certains anciens de mouvements de jeunesse décident de créer un groupe folklorique de danse et de chant d'Israël. Et j'en fais partie. Et ça, c'est en 66... 67 à peu près. Et donc, c'est une façon, effectivement, de continuer cette camaraderie, cette vie communautaire, ces rigolades incessantes. On continue le mouvement, on est un tout petit peu plus âgé, et en plus, on se produit sur scène.
Et vous êtes la chanteuse de Colavive,
voilà.
Du groupe.
Au début,
chanteuse de groupe,
si je peux m'exprimer ainsi. Oui, oui. Au début, je danse aussi, parce que j'aime bien danser les danses israéliennes, et je chante. Mais ensuite, je trouve qu'il faut faire ça sérieusement, donc, et ne pas être haletante au micro. Et donc, je décide d'uniquement de chanter, je deviens la
Alors,
chanteuse
Alors, je voudrais quand même
groupe.
Qu'on parle un petit peu plus de Colavive.
Oui.
Moi, j'ai connu le groupe Colavive et c'était un groupe qui avait une grande notoriété à l'époque.
C'est ce qui est incroyable. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire qu'il faut se reporter à l'époque. Israël est admiré à l'époque. Israël est demandé dans les festivals, dans les fêtes dites folkloriques. Je me souviens par exemple d'une foire au vin à Nantes où Israël est représenté à la fois par son folklore et par son vin kasher.
Ce qui
n'était pas terrible.
De ce côté-là, Israël a plus progressé que d'autres.
Oui, oui. Et donc, nous sommes demandés parce qu'il n'y a pas d'autres groupes ici. Et puis bon, on ne va pas faire venir un groupe d'Israël. Ça reviendrait plus cher de payer des billets d'avion. Nous sommes installés à Paris, nous représentons ce pays sans en être et nous dansons son folklore et je chante aussi son folklore en hébreu, moi qui ne connais pas l'hébreu. Ou du moins, je connais quelques mots.
Vous aussi, vous êtes invité à la radio.
Mais oui, nous sommes invités à la télévision, ce qui est absolument impensable.
Dans quel cadre vous êtes
Dans le cadre du Grand Échiquier. On est invité 2 ou 3 fois, à la fois pour les danses et pour le chant. Et nous sommes présentés d'une façon dithyrambique par Jacques Chancel, aussi à la télévision par Jacques Martin, à la radio par des tas de gens. C'est assez incroyable. Ça n'existe plus maintenant. Maintenant, on boycotte pas mal.
Le groupe, c'est d'ailleurs le groupe Colavive qui danse dans Rabbi Jacob aussi.
Oui, mais bien sûr.
La fameuse danse.
Mais oui, et où je fais de la figuration. Moi, je me souviens parfaitement de cette scène de Rabbi Jacob où les danseurs de Colavive dansent.
Et qui est toujours un film formidable.
Mais oui, mais oui.
Et vous enregistrez aussi les premiers albums.
J'enregistre avec Colavive mes premiers albums, dont un. Otazoï obtient le prix Charles Cros, ce qui est aussi impensable maintenant.
Alors Otazoï, vous venez de nous dire que vous chantiez en hébreu, une langue que vous ne connaissiez pas,
oui.
Mais Otazoï c'est quand même plutôt du yiddish.
Oui, parce que dans le groupe Colavive, petit à petit, on insère une ou deux chansons yiddish, et petit à petit, un peu plus. Je continue à faire partie de ce groupe. Et là, je décide de chanter uniquement en yiddish. Je décide de chanter uniquement en yiddish car l'hébreu me semble une langue étrangère, ce qui est vrai, c'est une langue étrangère pour moi, et inauthentique, donc. Et moi, je suis donc inauthentique quand je chante, alors que le yiddish fait partie de ma culture. Je le parle très mal, je crois savoir le parler, puisque j'ai entendu toute mon enfance,
vos parents
toute
parlaient,
ma jeunesse,
je suppose, entre eux en yiddish.
Ils parlaient constamment en yiddish. Je
et
n'ai entendu que
à
le
yiddish. En français.
Non. Ils s'adressaient à nous en yiddish aussi et nous
et
leur répondions en français. Nous refusions à la maison de parler. Enfin, nous refusions. C'était normal de ne répondre qu'en français. Et nos parents ne nous demandaient pas d'apprendre le yiddish. Comme dans d'autres familles plus intellectuelles, où c'était un devoir. Hein,
et dans le mouvement, je suppose que c'était tout hébreu et
pas
yiddish. Le yiddish était la langue de la diaspora.
On se moquait de l'accent.
Alors comment vous constituez, quelles sont les premières chansons que vous chantez en yiddish et comment vous les choisissez?
Je choisis les chansons les plus classiques.
C'est-à-dire?
Les plus folkloriques. Bah, les chansons les plus anciennes, par exemple... Eufen Pripitschik, que autour de la cheminée, les enfants sont rassemblés, le rabbin leur enseigne l'alphabet. C'est une chanson que j'ai beaucoup entendue fredonner par mes parents.
Et que vous continuez à chanter.
Et que je continue à chanter.
C'est une magnifique chanson.
Oui, c'est une très belle chanson. Surtout quand on la réarrange musicalement, on peut toujours la chanter. Tout peut se chanter toujours. Je choisis comme ça. Et petit à petit, mon goût s'élargit et s'affine en même temps et ce que je préfère chanter, ce sont des chansons du répertoire yiddish américain de comédie musicale dont les chansons sont beaucoup plus lyriques, beaucoup plus proches même souvent du cabaret allemand.
Et vous écoutez les chanteurs, parce qu'il y a quand même avant vous des chanteurs, des chanteuses yiddish. Est-ce que vous les écoutez? Est-ce qu'il y a les disques chez vous?
Chez nous, il y a des 78 tours des 78 tours vieillots.
Et de qui? Des Barry Sisters des...
Non. Nous avons Sarah Gorby.
Oui.
Nous avons beaucoup Sarah Gorby, même en 78 tours, c'est ça qui est extraordinaire. Et nous avons...
C'était qui Sarah Gorby?
Sarah Gorby, c'est une sublime chanteuse qui vient de Bessarabie, qui a vécu en Argentine et qui s'est retrouvée à Paris, qui chante donc en russe, qui chante en yiddish, qui chante en espagnol, qui a un timbre de voix merveilleux. Et mes parents ont des disques en russe d'elle. C'est ça qui est incroyable. Et nous avons aussi le Chazan, le chantre de synagogue, Yossel Rosenblatt, qui chante la prière des morts. Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous avons des chansonnettes, puisqu'il y a un tourne-disque, hein, donc, chez mes parents, des chansonnettes légères, et nous avons la prière des morts, par ce célèbre chantre de synagogue, qui a une voix sublime, qui fait pleurer terriblement, même si on ne comprend pas. Ce qu'on comprend de la prière, c'est les noms des camps. Voilà.
Donc, Vous avez fait vos premiers pas de chanteuse dans un groupe.
Oui. Alors mes premiers.
Tout en enseignant le français à des adolescents de banlieue.
Ouais.
Et brutalement, vous décidez que cette double vie ne vous convient plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus à la fois aller faire cours en français et chanter. Et vous décidez de.
Oui. Je suis prise une sorte de délire, sans doute, au moment de la remise du prix Charles Cros pour le premier disque yiddish que je fais avec Colavive. Je pense que tout va s'éclaircir à ce moment-là, que je vais pouvoir vivre.
De votre voix, d'autres espèrent vivre de leur plume.
Oui, de mon chant. Et puis surtout, je pense que je commence, ça va faire 10 ans que je suis professeure, je commence à m'ennuyer. Bah, j'apprends au début, c'est ça qui est paradoxal, quand je commence en 69, j'ai des élèves de second cycle à Saint-Germain-en-Laye.
Qui ne sont pas tellement éloignés de vous.
Je leur ressemble terriblement. Et la concierge d'ailleurs du lycée me demande de rentrer par l'entrée des élèves, la porte des élèves. Elle est, voilà. Et je ressemble à mes élèves. Et je crois que d'ailleurs que ça leur fait un choc à mes élèves, parce que jusque-là, c'est en 69, hein, c'est donc juste après 68, jusque-là, ils ont quand même des dames d'un certain âge.
Hein, voilà.
Et même si elles ne sont pas d'un certain âge, qui ont un aspect d'un certain âge, et qui une façon de s'habiller.
Du 22 mars,
et
bah, 68.
Oui, moi je sors de là et je ne m'habille pas tout à fait comme elles, voilà. Et puis j'ai une tête qui ne leur ressemble pas.
Et le prix Charles Cros vous décide à devenir vraiment Dalila, c'est-à-dire à devenir une chanteuse professionnelle.
Oui, je me dis, on ne peut pas faire les deux.
Merci Dalila, on vous retrouve demain.
Mais à demain.
In the Bronx of New York City lives a girl who's very pretty. Lena is her name. Such a lovely girl is Lena. How she plays a concertina really is a shame. She is a swell musician. She has a good position to go across the sea and entertain. And now they say that Lena is down to Palestina, and things are never going to be the same. They say that Lena is the queen of Palestina, just because she plays a concertina. She plays it day and night. She plays with all her might. She never gets it right. But how the lover want my rubber. I heard her play once or twice. Oh, murder. But she was nice. They said that she was fat, but she got Lena playing on her concertina. Way down Palestina, way.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Annette Wieworka avec Dalila. À voix nue. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Élodie Royer, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
She is a swell musician, she has a good position to go across the sea and entertain. And now they say that Lena is down to Palestina, and things are never going to be the same. They say that Lena is the queen of Palestina, just because she plays a concertina. She plays it day and night, she plays with all her might. She never gets it right, but how the lover want more of her. I heard her play once or twice, oh murder. But she was nice, they say that she was fat, but she got Lena playing on the concertina. Where down Palestina, where?